Vous êtes sur RTL.
Noël.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Oui, laissons-nous tenter. Bonjour Bernard Lehu.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors, en cette veille de Noël, à quelques heures de la soirée du réveillon, vous nous avez préparé une sélection de romans qu'on pourra offrir ce soir ou demain au pied du sapin. On commence par un polar et ça s'appelle Surface d'Olivier Norek.
Lieutenant de police en Seine-Saint-Denis, désormais en disponibilité, Norek a le chic pour mettre en scène des polars ultra-urbains et il a donné naissance à un enquêteur hors pair, le capitaine Coste. Mais dans Surface, il ose se renouveler avec brio. Tout d'abord en donnant le rôle principal à une femme, cette fois-ci, Noémie Chastain, capitaine à la brigade des stupes, défigurée par un coup de feu lors d'une intervention. Physiquement et moralement brisée, le capitaine Chastain va devoir se reconstruire. Ça commence mal. Sa hiérarchie la placardise dans un commissariat de l'Aveyron. Olivier Norek, spécialiste du polar des villes, nous embarque donc dans un polar des champs. Pourquoi ce changement de cap?
L'Aveyron, c'est là où il y avait la maison de ma grand-mère et c'est là où j'ai passé toute mon enfance. C'est mes premières balades, c'est là où je me suis explosé le pouce en faisant des feux d'artifice, c'est là où j'ai découvert mon premier carton de Playboy dans le grenier. Et puis aussi, un côté beaucoup plus polar, quand vous enquêtez en ville, vous ne connaissez personne, parce que les villes sont gigantesques. Donc vous allez immédiatement sur ce qui n'est pas humain, donc sur le scientifique. C'est l'ADN, c'est les empreintes digitales, c'est les géolocalisations de portables, c'est les réseaux sociaux, c'est les écoutes téléphoniques. À la campagne, c'est exactement l'inverse. Les policiers connaissent tout le monde. Et alors là, on commence par l'humain en premier. Et après vient la technique, en fait, pour être sûr et certain que les suspects qu'on a vus sont les bons. Donc, dans les villes, c'est le tout scientifique. Et dans les campagnes ou dans les villages ou dans les petites villes, c'est le tout humain.
Autre belle idée de l'écrivain, un village englouti au fond d'un lac depuis la construction d'un barrage il y a 25 ans. Le squelette d'un enfant disparu à l'époque remonte à la surface. Ah. C'est le point de départ d'une intrigue qu'on ne lâchera plus.
Et c'est pour ça que ça s'appelle Surface.
Mais vous avez tout compris Vincent, l'excellent Surface d'Olivier Norek avec sa touchante enquêtrice Noémie Chastain est édité par Michel Lafon.
Alors votre deuxième roman à offrir Bernard, il est signé Isabelle Autissier et son titre c'est Oublier Clara.
Aussi à l'aise à la barre de son bateau que devant la page blanche, Isabelle Autissier, elle nous plonge au cœur d'une énigme familiale ancrée dans l'histoire chaotique de la Russie, de Staline à Poutine. Robin, un ancien pêcheur, appelle à son chevet son fils Yuri, émigré en Amérique où il est devenu un ornithologue de renom. Il lui révèle que sa grand-mère, Clara, spécialiste de l'atome sous Staline, a été expédiée au goulag et n'est jamais revenu. Pourquoi? Que lui est-il arrivé? Le père confie au fils la mission de découvrir la vérité. Vous serez scotché, croyez-moi, par ce retour vers un passé douloureux, dans une nature hostile, le cercle polaire, que la navigatrice écrivaine Isabelle Autissier connaît très bien.
Là, je repars encore cette année au nord du Spitzberg, et c'est ça que j'aime, au fond. On me demande des fois pourquoi c'est un peu bizarre de passer son temps en Arctique ou en Antarctique, alors qu'il y a des endroits beaucoup plus faciles et sympathiques. Mais parce que j'aime cette puissance dans ces endroits-là, cette force incroyable, cette puissance incroyable. Et puis, c'est d'une beauté... moi, je suis très sensible à la beauté des lieux. Et donc, c'est aussi ce que j'ai eu envie de faire partager, parce que je crois que tout le monde n'aura pas la possibilité d'aller là-bas. Et essayer d'en ramener quelques images, ça fait partie aussi, je pense, des bons aspects, en tout cas, de l'écriture d'un roman.
Je me sens sensible aussi à la beauté des lieux.
Ah ben moi, j'irais bien au Spitzberg, mais effectivement, je vais lire le livre d'Isabelle Autissier.
Oui, embarqué pour la bouleversante histoire de famille, imaginée donc par Isabelle Autissier dans l'oppressante Russie de Staline et les glaces de l'Arctique, Oublié, Clara, est publié chez Stock.
Alors, le troisième livre que vous nous proposez d'offrir, c'est Une joie féroce, signé Sorche Chalandon. Alors, sur un thème a priori douloureux, puisque c'est la maladie, mais le livre est en fait super vitaminé.
Ah, mais ce livre est une prouesse. Jeanne apprend qu'elle a un cancer du sein, les effets dévastateurs des traitements, l'éloignement des proches. Rien n'est éludé, ça pourrait devenir en effet une lecture éprouvante. Ça ne l'est pas, parce que Jeanne, la discrète, se mue en guerrière face à la maladie avec l'aide de trois autres jeunes femmes, ses compagnes d'infortune. Et puis parce que, surprise, le livre bascule dans un polar inattendu pour soutenir financièrement l'une d'elles. Ouais. Les quatre amies montent l'audacieux braquage d'une bijouterie de la place Vendôme.
Excellent.
Un scénario haletant, jouissif, on se régale et Sorche Chalandon n'a rien négligé pour nous procurer ce plaisir de lecture. Écoutez.
Moi, ce que je peux vous dire quand même, c'est que je l'ai préparé pendant 2 mois, ce braquage. Bien sûr, c'est-à-dire que je suis allé
trois fois dans la bijouterie avec des sacs de plus en plus gros pour savoir s'il les ouvrait. Il ne les ouvrait pas. Incroyable. Ma belle-mère et ma femme ont eu la gentillesse de rentrer au Ritz avec des sacs aussi pour voir si on pouvait aller avec des sacs non fouillés jusqu'au bar, puisque tous ces lieux-là sont dans le livre. Et quand il y a quelques semaines, j'ai vu qu'une fausse princesse arabe avait volé des diamants dans le même coin, près de la place Vendôme, les avait remplacés par des bouillons cubes. Je me suis dit, ça, j'aurais jamais osé.
Une joie féroce, le roman de Sans Chalandon, publié chez Grasset.
Alors, 2019, qu'on va bientôt quitter, a confirmé le talent d'un écrivain jusqu'ici inconnu du grand public, Franck Bouys. Son roman a pour titre « Né d'aucune femme ».
Dans le secret du confessionnal, une inconnue révèle à un prêtre qu'il sera bientôt appelé à bénir le corps d'une femme à l'asile et le supplie de récupérer sous la robe de la morte des cahiers qu'elle a cachés, écrit par une certaine Rose, internée dans ce même asile. Avec le prêtre, nous découvrirons le contenu de ces cahiers et le destin de Rose, jeune paysanne, vendue par son père, un châtelain, le début d'une descente aux enfers qui m'a envoûté jusqu'au dénouement sidérant. Contre le silence dans lequel on l'a enfermée, Rose se révoltera par les mots de ces fameux cahiers. Et Franck Bouys, l'auteur, lui, comment est-il venu à l'écriture ?
Le grand contact, ça a été une merveilleuse grippe, en fait. Et ma grand-mère m'avait acheté des bouquins.
Lesquels ?
Et elle, Les Enfants du Capitaine Grant.
Ouais.
Il y avait L'île au trésor et il y avait Moby Dick. Au sortir de cette grippe, j'ai dit, mais c'est ça que je veux faire, quoi. Et je me suis mis à écrire des petites histoires à inventer, comme quelqu'un qui voudrait dessiner et qui recopierait comme ça. Je me suis aguerri pendant des années. Je savais que les mots, ce serait l'histoire de ma vie.
Et vous aviez quel âge à l'époque de cette grippe ?
14 ans.
Voilà, la grippe qui mène même à la littérature. Laissez-vous tenter par la puissance de Né d'aucune femme, le roman de Franck Bouys, publié à la Manufacture de Livres.
Allez, et puis on termine avec l'ouvrage qui a été élu Grand Prix RTL Lire cette année 2019. C'est À la ligne de Joseph Pontus. L'auteur raconte son expérience d'ouvrier intérimaire dans des conserveries de poissons et des abattoirs bretons. C'est un petit délice.
Ah oui, la révélation de l'année, un texte coup de poing. Et que dire de son contenu ? Une plongée vertigineuse dans le monde abrutissant de l'usine et de ses cadences infernales, imposées aux forçats de l'industrie agroalimentaire. Une odyssée rebelle et lyrique, une ode au monde ouvrier, une œuvre littéraire à part entière sous la plume de Joseph Pontus. L'Ulysse de l'intérim nous raconte comment il s'est retrouvé embarqué dans cette galère.
Par amour, j'ai quitté la région parisienne pour me marier à une bretonne. Et il fallait ramener des sous. Donc j'ai poussé la porte de l'intérim et j'ai travaillé dans les usines qui embauchaient dans le coin. Ça a été un tel choc. Pour moi, c'était vital d'écrire. C'était une nécessité, vraiment. Autant que de manger un kilo de viande par jour pour tenir physiquement. Et 2 kilos de patates.
Eh oui, et la patate, comme dit Joseph Pontus, il l'a gardée en se souvenant de ses lectures et des chansons qu'il aime, traîner par exemple. Ben oui, car à l'usine, on chante.
Il y a beaucoup d'ouvriers qui chantent à tue-tête. De toute façon, il y a un tel bruit avec les machines que puis un chef pourra jamais reprocher qu'on chante. Sauf à des moments très particuliers, et là c'est une phrase les plus dures et les plus belles que j'ai entendues d'une ouvrière qui était justement dépassée par le temps et qui disait à ses collègues « Aujourd'hui, c'est tellement speed que j'ai même pas le temps de chanter. »
Le vieux piano de la plage ne joue qu'en fa, qu'en fatigué. Le vieux piano de la plage possède un la qui n'est pas gai.
Joseph Pontus signe À la ligne, édité par la Table Ronde, le Grand Prix RTL Lire 2019. Voilà pour les dernières idées de romans de livres à offrir pour ce soir ou demain.
Oh ben ça, plein de bonnes idées, merci Bernard Lu. Donc on a fait le plein, on a rempli la hotte de livres. Dans un instant, on va offrir des BD pour Noël avec Monique Younes.
Dans une petite chambre, mon joli cœur du mois de septembre, je pense encore à toi.
Monique Younes, bonjour Monique.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Oui, super.
Alors, vous venez ce matin avec une sélection de bandes dessinées qu'on va aussi pouvoir mettre ce soir, voire demain matin, ça dépend des familles, sous le sapin. Le premier album a pour titre Super Mickey. C'est une nouvelle histoire irrésistible de Mickey Mouse, m'avez-vous dit, mais imaginée par l'auteur flamand Peter de Porter.
Super Mickey, donc c'est le dernier d'une collection imaginée par les éditions Glénat, qui a confié à des auteurs célèbres le soin de créer des histoires originales mettant en scène des héros issus de l'univers de Disney. Et donc le flamand Peter de Porter, auteur à succès de la série Dicky, a eu l'excellente idée de dessiner une histoire totalement muette mettant en scène Dingo et Mickey.
Je travaille toujours sans texte. Pour moi, c'est naturel. Et ça demande aussi un peu de créativité. En travaillant sans texte, vous trouvez des meilleures idées. Et après, c'est un humour aussi assez particulier si tu n'utilises pas le texte. Donc il y a beaucoup d'avantages pour moi et je trouve ça en plus plus beau.
Mais alors, Mickey, qui ne parle pas, c'est bizarre parce que d'habitude, il est très bavard.
Mais là, il est muet, totalement muet, tout comme Dingo, transformé en super-héros grâce à sa consommation effrénée de cacahuètes magiques. Alors, il survole Mickeyville, éteignant les incendies, sauvant les paquebots en détresse, ramenant les prisonniers fugitifs, arrêtant un train lancé à pleine vitesse qui risquait d'écraser les escargots en train de traverser la voie.
Bref, Dingo, Superman.
Oui, sauf que Dingo s'enrhume dans les airs. Ah. Il chute de son nuage et perd ses cacahuètes en plein vol qui tombent au beau milieu du zoo. Alors, vous imaginez le ravissement des éléphants, les crocodiles et les autres ours qui les mangent et ils commencent à voler à leur tour.
Ouais, j'imagine surtout la panique totale à Mickeyville.
Mais alors, évidemment, la zizanie est partout. Les prisonniers s'enfuient, les habitants ont peur, Mickey est sommé d'agir. Il enfile à son tour le costume de justicier pour essayer de faire régner l'ordre et le bonheur sur la ville. Est-ce que sa malice va payer? Là, off, c'est un autre problème.
En tout cas, c'est un album muet qui vous rend bien volubile, Monique.
Mais moi, j'ai adoré ce super Mickey de Peter de Porter qui a comme moi un fait pour les losers comme Dingo.
Des vraies histoires héroïques, c'est pas mon truc. Dingo était mon personnage préféré. Ici, il est super Dingo. Donc, si des choses tournent mal, il tourne super mal. C'est toujours plus intéressant. Donc, c'était très facile de trouver des blagues avec ça.
Et vraiment, Super Mickey est un album magnifiquement burlesque à la portée de ceux qui ne savent pas encore lire, comme de ceux qui n'y arrivent plus. Alors, Super Mickey est édité par Glénat pour la modique somme de 15 euros.
Excellente idée, Monique. Le deuxième album, il est édité par Fluid Glacial, lui. Alors, il joue avec les mots, et comme je sais que vous adorez dire des gros mots, c'est votre péché mignon. Vous faites ça, évidemment, sous couvert de l'impunité que vous confère votre métier.
Bien sûr.
Alors, je vous laisse le plaisir d'annoncer le titre.
Faut pas prendre les cons pour les gens.
Oui.
Alors, on le doit à Emmanuel Reuset, un pur produit de Goscinny et des Monty Python, avec un coin de Pierre Desproges. Tout ce qu'il faut pour rendre hilarantissime ce recueil de gags au cynisme parfait.
Donnez-nous quelques exemples.
Alors, il y a une cliente qui s'étonne auprès du libraire que l'exemplaire des Misérables de Victor Hugo qu'elle vient d'acheter ne comporte qu'un mot sur 30.
Ah.
Bah, normal, répond le libraire. Une association contre la maltraitance des enfants a demandé à ce que les passages relatifs à Cosette soient supprimés. Ensuite, les féministes ont trouvé sexiste que Fantine soit prostituée et que la Thénardier soit une criminelle.
Eh ben moi, je dis ça se défend.
Mais à la suite de quoi? Il y a les catholiques, les musulmans, les alcooliques anonymes, les témoins de Jéhovah. Tous ont exigé et obtenu la suppression des passages politiquement incorrects dans Les Misérables. Le livre a donc été caviardé. De fait, il ne reste plus sur les pages que quelques mots. Ou, car, mais, déjà, chaque petite fable de cet album est un régal, comme celle du jeune homme qui place des pubs dans ses conversations de famille pour arrondir ses fins de mois. Ouais. Pour moi, la palme revient à cette entreprise qui facilite le suicide de ses employés en leur offrant des lettres d'adieu pré-remplies.
Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
Eh oui.
Voilà,
si vous
Emmanuel...
vous sentez concerné, n'hésitez pas à le dire.
Emmanuel Reuset a écrit certains gags avec son compère Nicolas Rouault. Faut pas prendre les cons pour des gens. Est un délice d'intelligence critique. C'est édité par Fluid Glacial pour 12,90€. Histoire que les gens n'aient pas l'impression que ça coûte 13€.
Merci Monique Younes. Et dans un instant sur RTL, Isabelle Morini-Boss pour la télé du soir de Noël. Ça peut être très pratique pour garder le calme chez les petits. En attendant le passage de qui vous savez.
À qui dites-vous?
Tout de suite.
Santé. Laissez-vous tenter.
Avec Vincent Parisot sur RTL.
et Isabelle Morini-Boss pour parler de la télé. Isabelle, tout d'abord, peut-être les audiences d'hier soir, rapidement.
Oui, bah écoutez, on est dans l'ordre dans lequel on en a parlé hier. En même temps, il ne fallait pas être devin. Star Wars est en tête avec 4 600 000 téléspectateurs et 23% du public sur la une. Deuxième position, évidemment, La Reine des Neiges sur M6, 3 300 000 et 15% après X rediffusion. C'est un joli score. Et en troisième position, Affaire conclue, sur la 2, 2 400 000 téléspectateurs environ. Et tout le reste est équitablement réparti sur les différentes chaînes de la TNT. Voilà.
Alors, pour ce soir, Isabelle, les chaînes ont pensé aux enfants, j'imagine. Oui. Alors, sur TF1, oui, il y a Boule et Bill 2. Oui. Sur la 2, il y a Les Animaux des
Très
Alpes.
Bon.
Sur W9, Émilie Jolie.
Ah là là, j'adore.
Et sur M6, Le Voyage d'Arlo.
Oui, le 134e long métrage d'animation des studios Disney sorti en novembre 2015, où l'on découvre qu'il y a 65 millions d'années, les dinosaures n'ont pas disparu. Non seulement ils ont survécu, mais des millénaires après, ils sont devenus intelligents et sensibles, parfois trop. Le petit dinosaure Arlo va ainsi devoir affronter 1000 épreuves pour s'endurcir, lui qui au début du film a peur de tout, y compris de simples lucioles par nuit douce.
Allez, va faire un petit tour par là-bas.
Moi tout seul?
Vas-y.
Eh oui, la peur, si je veux dire, risque de ne pas faire mieux
aux autres.
Oui. Alors moi, j'ai été heureusement surprise, d'abord par ce film d'animation. Je ne suis pas une fanatique des images de synthèse, mais franchement, on se laisse prendre. Et puis j'ai été également heureusement surprise par une spéciale consacrée à Roberto Alagna, recevant ses amis sur la 3. C'est joyeux, amical, froufroutant. Et ça commence bien sûr par Roberto et Caruso, Caruso par Roberto. Entre ces artistes, il faut voir la joie de Roberto Alagna chantant à Balatti avec son ami Charles Castronovo. J'adore cet air. Alors, aucun sectarisme n'ont ainsi convié des artistes dits de variété, comme Christophe Willem, là momentanément en couple avec la ravissante Catherine Trottmann, mais qu'elle est belle, pour Guide Me Home, immortalisée par Freddie Mercury.
Christophe Willem, Catherine Trottmann.
Il est un peu étouffé par elle, mais franchement, c'est splendide. Et ce qui est formidable.
Leur couple est momentané, hein, vous nous précisez.
Oui, oui. Là, comment vous dire? On parle d'une même voix.
Ne le dites pas.
Alors, ce qui est formidable, c'est qu'on les voit en loge, tous ensemble, se soutenir, s'encourager, se taquiner avant, se féliciter après. Comme justement Christophe Willem, honoré par le maître.
Tu devrais chanter de l'opéra.
C'est toujours très impressionnant de chanter avec des chanteurs, chanteuses classiques. Ça donne plein d'idées.
Et aucun snobisme opérette-opéra à l'heure de l'apéro. Faut voir l'espièglerie agitée de Julien Bert. Il a une sorte de petit mufle à la Patrick Devers et il jubile en chantant Mexico.
Mexico.
C'est pas un public facile.
Non, on a envie de chanter avec le public.
Et devinez maintenant l'identité de cette invitée attachante.
J'ai pas trouvé.
Eh ben c'est Claire Keim.
Ah oui.
Vous avez honnêtement c'était difficile.
Oui.
Alors je vais pas tricher, j'ai beau jouer les Charlotte Latour, c'est un domaine que je connais mal, mais j'ai eu le coup de foudre pour ces artistes dirigés par Yvan Cassard, notamment pour la lumineuse Marina Rebecca. Elle est polychrome, elle a été inventée pour Kodak, hein, interprétant un air que je ne connaissais que par les albums de Tintin.
Ah la Castafiore.
Mais ah je ris de me voir si belle.
En ce miroir. Elle est tellement lue.
Ah, mais oui, exactement. Mais
moi non plus, jamais entendu.
Elle a un sourire cadeau éblouissant. Et elle est, mais franchement, elle attire la lumière et le regard. Et on termine évidemment par un Christmas Carol interprété par le pape du lyrique américain. Non, pape, c'est son nom, hein, René Pape.
Ah, d'accord.
May your days be merry and
blue. J'adore
voilà, le pape qui chante Noël, quand même, voilà. C'est la classe.
Ça s'impose. J'adore les chants de Noël américains. Voilà.
Merci
aussi, hein.
Beaucoup. On regardera tout ça à la télé ce soir. Isabelle Morini-Bosque. Et dans un instant sur RTL, Julien Courbet.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Vincent Parisot.
Lire pour le plaisir.
RTL. Bon, il est 9h30 presque pile et ça c'est mon cadeau, Julien Courbet. Ça peut vous arriver, c'est à vous.
C'est un super cadeau que vous me faites là, vraiment. Un beau cadeau.
Je vous l'emballe.
Ça m'a fait plaisir. si vous parlez de qui, d'Isabelle Morini-Bosque.
Elle est encore là.
Oui.
Je sais. Il paraît qu'elle est toute en rouge, oui. Comme un Père Noël. J'aimerais bien qu'elle vienne dans ma cheminée déposer un petit cadeau, moi.